dans Romains chapitre 1, l'épître de Paul aux Romains. Et au chapitre 1, nous allons relire ces mêmes passages, hein, mais Romains chapitre 1, et je vais lire ces premiers 7 versets. Donc Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Peut-être une première chose que je veux mettre au point, c'est que l'Église de Rome n'a ni été fondée par l'apôtre Pierre, ni par un autre apôtre. C'est pour cela que Paul a voulu visiter cette église. Hein, c'était un principe de Paul et il l'exprime dans le chapitre 15, versets 20 et 21. Et il dit que son principe, c'est de ne jamais bâtir sur le fondement d'autrui. Il a toujours été dans des villes où il n'y avait pas, où quelqu'un d'autre n'était pas passé. C'était le principe de vie de Paul. Et donc, s'il se rend à Rome, c'est parce que personne n'était passé par là. Il y avait eu des chrétiens, peut-être des juifs qui étaient à Jérusalem à Pentecôte et qui avaient reçu un message. Il y avait d'autres comme Ananias, pas Ananias Saphira, mais avec Prisca et Aquilas et Prisca qui avaient été à Rome. Puis qui ont rencontré Paul à Corinthe, puis qui sont repartis. Et donc là, quand on lit l'Épître aux Romains, on lit dans le chapitre 16, ils sont retournés à Rome. Donc, Paul veut aller là, c'est pour encourager ces chrétiens, ils ont entendu, ils ont reçu, mais il fallait que quelqu'un puisse leur apporter un complément d'enseignement. Et c'est ce qu'il veut faire. Mais c'est intéressant que, bon, il parle de l'évangile de Dieu, mais vous avez vu au verset 5, il dit « Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. » Amener à l'obéissance de la foi tous les païens. Il a dit « Moi, c'est mon ministère, c'est de voir le plus grand nombre de non-juifs venir à Dieu. » Et finalement, c'est ce projet de rassembler tout ce monde et les amener à adorer le Seigneur, c'est le but de Dieu. Hein? Parce que avec le péché dans le monde, eh bien, l'homme n'était plus en état de pouvoir adorer Dieu. Hein? Il fait des efforts et il a inventé toutes sortes de religions et puis il n'y en a pas une qui est plus réussie que les autres. C'est pour ça que toutes continuent, hein, toutes se maintiennent, parce qu'il n'y en a pas une qui peut prétendre arriver plus loin que l'autre. Mais il y a ce désir de vouloir adorer l'être divin, mais il n'y arrive pas. Et parce que c'est impossible. Et là, c'est le plan de Dieu, c'est ça l'évangile de Dieu, c'est qu'il met en place la possibilité de venir et de l'adorer réellement. Hein, et donc, regardez avec moi dans le chapitre 15, regardez Romains 1, mais regardez Romains chapitre 15, et l'apôtre Paul développe un peu cette idée. en citant des passages de l'Ancien Testament. Donc Romains chapitre 15, les versets 8 à 12, regardez toutes ces références aux païens qui devaient venir et adorer Dieu. Donc Romains 15 et au verset 8, il dit « Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis, donc les juifs, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, et voilà une première citation, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, je te chanterai à la gloire de ton nom. Hein, » donc les nations représentant les non-juifs. Verset 10, et il dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Nations, les païens, réjouissez-vous avec le peuple juif. Hein. Et encore, verset 11, « Louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Esaïe dit aussi au verset 12, « Il sortira d'Isaïe un rejeton, donc parlant de Christ, qui se lèvera pour régner sur les nations, et les nations espéreront en lui. » Et donc, voilà, il dit, c'était dans, ça depuis toujours, même si les Juifs ont eu cette idée que c'était pour eux, et que pour eux, et qu'il fallait devenir juif, sinon on n'avait pas accès à Dieu, c'était pas le fait d'appartenir au peuple juif qui donnait accès à Dieu, c'est que Dieu voulait que tous viennent. C'était l'objectif. Et Paul a compris cela, et surtout avec ce que Christ a fait sur la croix et sa résurrection et tout cela, eh bien, ça a rendu tout cela possible. Et donc, nous pouvons déclarer que la fin, hein, l'aboutissement du plan de salut de Dieu, c'est que les hommes de toute nation l'adorent. Et c'est ce que nous voyons dans Apocalypse chapitre 5, hein, et versets 9 et 10, lorsque l'apôtre Jean, dans cette vision, voit prophétiquement ce qui se passera dans les lieux célestes. Et il dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Donc, c'est vraiment l'aboutissement, la réalisation, c'est que si Christ est mort sur la croix et que le message, il a dit « allez par toutes les nations », eh bien c'est parce que justement il voulait que des gens de toutes nations viennent et l'adorent. Hein, l'évangile n'est pas réservé à un peuple particulier. Hein, certains ils ont cette idée « oui, le christianisme c'est le dieu des blancs hein, ». Et il y a un certain sentiment qui... issu par la suite de la colonisation, tout cela, qui a créé des problèmes dans certains pays. Mais ce n'est pas la religion, ni des Blancs, ni de quelqu'un d'autre. C'est la réponse de Dieu pour tous les hommes. Hein? Et donc, je veux développer ce thème-là, c'est l'aboutissement, la fin du plan de salut de Dieu, c'est que les hommes de toute nation l'adorent. Hein, la fin, c'est pas qu'on soit sauvé de l'enfer, c'est que l'on puisse l'adorer, hein, comme on doit. Donc, la souveraineté de Dieu n'est pas ce qui est mis en valeur dans le plan du salut de Dieu, c'est pas le fait que Dieu peut tout faire, hein, qu'il est grand et qu'il est plus grand et qu'il est ceci, cela, mais ce qui est mis en valeur, c'est son amour. Hein, c'est son amour pour nous qui l'a poussé à nous offrir ce moyen, cet accès. Hein, il a dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et comme il l'avait annoncé, il nous dit dans ses versets 2 et 3, hein, il nous dit, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes, hein, je suis dans Romains chapitre 1, dans les Saintes Écritures. Donc c'était un plan qui était déjà préparé, il l'a annoncé pendant des heures, et quand il a donné son Fils, c'était comme il l'avait annoncé. Et ce que nous voyons ici dans ce passage, hein, donc les versets 2 et 3, eh bien nous voyons la Trinité divine, donc il nous parle de Dieu, qui représente le Père, hein, le Père qui par ses prophètes, a mis en place ce plan. Il nous parle du Fils qui est ressuscité, donc s'il est ressuscité, c'est qu'il est mort, et qu'il a déclaré fils par sa résurrection, et il nous parle aussi de l'intervention de l'esprit de sainteté dans ce plan. Hein, donc les trois personnes de la Trinité eh bien, ont agi, chacun dans son rôle, et chacun dans ce qu'il a apporté. Il s'était réparti la tâche pour pouvoir offrir cela aux êtres humains, aux pécheurs, et afin que les nations louent et adorent le seul vrai Dieu. Hein, donc, et c'est donc là, c'est ça qu'il dit à la fin du verset 5, afin que d'amener à son nom, en son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens. Et donc, c'est vraiment ce plan, et c'est ça qu'il a dû mettre en place, et c'est ce plan-là qui est appelé l'évangile de Dieu. Tout à l'heure, nous avons lu le psaume 103, hein, le psaume 103, et puis j'ai souligné le fait que au début, c'était David lui-même, personnellement, et nous, en lisant ce psaume, bien sûr, c'est nous, personnellement, qui adorons le Seigneur. Ensuite, il exprimait la pensée de Dieu. Après, il voulait que ce soit fait ensemble, que tous ceux qui aiment Dieu puissent l'adorer aussi. Hein, et donc, c'est pour cela que nous avons des rencontres. Hein, on peut pas. Certains me disent, mais moi, bon, je peux adorer le Seigneur à la maison. Hein, je peux lire la Bible, tout seul à la maison. Oui, et puis tu peux être un peu paresseux aussi. Parce qu'il y a une partie, bien sûr, il y a une partie où on, individuellement, hein, le Seigneur nous dit de nous retirer dans notre chambre. Jésus se retirait sur la montagne pour prier. Et donc, il y a un moment où on peut être seul, il y a un moment où on le fait ensemble. Et nous l'encourage. Et celui qui se prive il se prive de ce que le Seigneur a prévu. Après, il dit, mais aussi, en même temps, il invoque les anges, hein, toutes les gloires célestes, à adorer le Seigneur. Et il dit même la nature. Il dit pour actuellement, hein, on le verra plus tard dans Romains, il dira que la nature, elle, souffre parce qu'elle ne peut pas s'exprimer. L'être humain, le péché de l'homme fait souffrir la nature et elle ne peut pas. Mais elle le glorifie quand même. Hein. Il suffit de voir, regarder la nature là où les hommes n'ont pas touché. Et puis on dit, c'est merveilleux, c'est beau. Hein, celui qui a conçu cela, il avait du goût. Hein, que ce soit une petite fleur, que ce soit le visage d'un nouveau-né, que ce soit un paysage et des montagnes. Et récemment, j'ai pu voir, depuis le Jura, j'ai pu voir les Alpes suisses le soir avec le coucher de soleil. C'était magnifique. Et tout ça, ça glorifie Dieu. Hein, c'est, quand on voit ça, ben, on pense à Dieu. Là, le psaume 103, il invite, hein, il exprime ce fait que Dieu veut que tout ce qui existe l'adore. Et c'est lorsque tous l'adorent, c'est là où il y a de l'ordre et il y aura la paix. Hein. C'est dans le psaume 146, les versets 1 et 2, où Dieu dit « Je voudrais que tous les hommes aient ce sentiment ». Ce sentiment où il dit « Louez l'Éternel ». Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Et d'accord, j'ai compris. Il faut louer Dieu. Mais comment ? Hein, comment on loue Dieu ? Hein, parce que là, vous regardez autour de vous, vous voyez toutes sortes de gens qui proposent toutes sortes de choses. Et très variées et même assez contradictoires. Chacun a... en fonction des positions et toutes sortes de choses, rien que dans le milieu chrétien, hein, sans parler des autres religions qui ont leurs idées de comment adorer Dieu. C'est vrai que la première fois que Jésus en parle, il parle du fait d'adorer Dieu, c'est en parlant à la femme samaritaine. Hein, c'est dans Jean chapitre 4 et nous voyons la femme samaritaine au fur et à mesure de la conversation, on arrive vers le verset 20 et elle dit « Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous dites le lieu qu'il faut adorer, c'est à Jérusalem. » Et Jésus, il est prêt pour ça là. Hein, et il ne va pas rentrer dans le débat « vous et nous » parce qu'elle s'adresse à lui, « vous » parce qu'elle le voit, elle reconnaît, il il a une tenue de juif, il a la tête d'un juif, et donc elle considère, elle dit « vous dites que c'est Jérusalem ». Mais Jésus dit, je vais te dire, dans l'adoration, il y a trois catégories d'adoration. Et on peut le voir dans Jean chapitre 4, les versets 22 à 24. Une première catégorie, il a dit, il y a ceux qui adorent sans connaître Dieu. Ils ne le connaissent pas et ils essaient de l'adorer. Et il parlait de vous les Samaritains, vous ne le connaissez pas vraiment, mais vous essayez de l'adorer. Ensuite, il a dit, il y a aussi ceux qui le connaissent et qui l'adorent. Et là, il parle des Juifs, qui ont une connaissance, une éducation en tous les cas. Mais ensuite, la troisième catégorie, il a dit, mais les vrais adorateurs adorent en esprit en vérité. Il y en a qui ne connaissent pas l'Évangile et qui essayent d'adorer. Hein, il y en a qui, sincèrement, ils veulent adorer Dieu. Hein. J'ai beaucoup fréquenté les musulmans, hein, il y en a qui sont vraiment sincères, mais ils n'ont pas toute la connaissance. Ils ont été privés de certaines connaissances de Dieu. Après, vous avez tout un monde de la chrétienté, hein, au sens large du mot, qui ont reçu une éducation concernant Dieu, tout ça, et qui essayent d'adorer Dieu, mais en même temps, ils sont frustrés parce qu'on a l'impression que ça va nulle part. Et après, Jésus a dit, mais c'est la première catégorie, c'est pas bon. La deuxième, c'est pas bon. Les vrais adorateurs adorent en esprit, en vérité. Et donc, bien sûr, en entendant cela, on dit, on voudrait faire partie du troisième groupe. Mais est-ce que je peux ? Ce qui est intéressant, c'est que Jésus dit à la femme, il dit, il viendra le moment où on adorera en esprit, en vérité. Et il dit, et il est venu. Jésus a pu annoncer la venue de ce moment où on pouvait adorer Dieu en esprit, en vérité. Qu'est-ce qu'il y avait qui se passait, qui n'était pas avant et qui allait être? Eh bien, justement, lui, il parlait de ce qu'il allait faire, hein, de sa mort, sa résurrection, son ascension et la venue de l'Esprit à Pentecôte. Vous parlez de ceux qui adorent, vous connaissez peut-être l'histoire du veau d'or, hein, dans les enfants d'Israël, quand Moïse s'est absenté, il était absent depuis quelque temps, et dit on ne sait pas où il est passé. Et alors Aaron, son frère, on vient le voir, il dit écoute, toi tu as un peu d'expérience, certainement qu'il savait un peu comment faire ça, il avait travaillé ça pour les Égyptiens. Il dit écoute, tu sais travailler le métal, fais-nous un dieu. Et vous savez, le veau d'or, hein, on parle toujours du veau d'or, mais eux, ils l'ont appelé l'Éternel. Hein. Et il dit, voilà, le veau, adorer l'Éternel. Et il parle dans Exode chapitre 32, hein, il nous dit, c'est voilà l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Donc, en fait, ils prétendaient adorer l'Éternel, Dieu, par le biais d'un veau. Hein, de dire on a besoin de voir quelque chose quand même. Hein, et bon, ça existe encore aujourd'hui. Hein, mais c'est pas parce qu'ils prétendaient adorer Dieu, hein, ou l'Éternel qu'ils l'adoraient réellement. Parce qu'en fait, Dieu, il a été très offensé par la chose. Hein, et il était prêt à les détruire. Et Moïse a dû intervenir. Donc, eux ont dit, nous adorons l'Éternel, mais l'Éternel ne s'est pas senti adoré. Hein, c'est pas parce que nous, on pense faire quelque chose que c'est bon. En fait, on a besoin de comprendre ce que lui veut et ce que lui demande et comment venir à lui. Et donc, avec le veau d'or, ils s'étaient servis de ça. Ils appelaient ça « on adore l'Éternel », mais en fait, ils faisaient la fête et c'était pour tout leur plaisir et leur passion. Et ils dansaient pour se faire plaisir. Hein. Et on a l'impression, parfois, on voit certains rassemblements, on se demande c'est pour plaire à qui? Est-ce pour Dieu ou pour ceux qui sont là? Et nous devons faire très attention. Donc, ce n'est pas parce qu'on prétend adorer Dieu qu'on adore réellement Dieu ou qu'il se sent adoré. Jésus dit, les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Justement, l'évangile qui est prêché, Eh bien, c'est celui-là qui nous montre et qui nous ouvre la porte comment adorer Dieu. Pour ainsi de comprendre un petit peu, parce que c'est pour ça que l'Ancien Testament existe, ce n'était pas pour donner de la lecture à lire, ni pour nous embêter, mais l'Ancien Testament, symboliquement, représente beaucoup de choses qui se réalisent dans le Nouveau Testament, et donc on comprend l'Ancien à cause du Nouveau, et on comprend le Nouveau à cause de l'Ancien. Hein. Et donc, regardez avec moi dans Lévitique chapitre 8, si vous voulez. Lévitique chapitre 8, c'est peut-être un passage, un livre que la première fois que vous l'avez lu, vous demandiez pourquoi il était là et ce qu'il pouvait vous apporter. Mais dans Lévitique chapitre 8 déjà, je ne vais pas lire le chapitre, mais vous voyez le titre déjà hein, qui est donné, c'est la consécration d'Aaron et de ses fils. Donc Dieu va choisir des hommes qui seront les intermédiaires dans l'adoration de Dieu, hein, donc des prêtres. C'est pour la première fois qu'il y aura des prêtres, et leur fonction, c'est de faire le lien entre l'homme qui veut adorer Dieu et Dieu qui veut être adoré. Hein, et donc, il choisit ces hommes. Il y a toute une cérémonie, la consécration, les sacrifices. Et ensuite, on arrive au chapitre 9, et c'est là, c'est eux vont commencer à remplir leurs fonctions. Hein? Donc, au chapitre 9, Moïse leur dit de choisir des animaux, il prépare, il leur dit comment le faire. C'est un sacrifice d'expiation, donc quand c'est pour expiation, ça veut dire que c'est pour le péché. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est que le péché soit expié. Hein, si on veut adorer Dieu, d'abord, il faut écarter le problème. Hein. Le problème, ce qui est entre nous et Dieu, c'est notre péché. Et donc, verset 3, il dit, tu parleras aux enfants d'Israël, tu diras, prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation. Ensuite, verset 5, il nous dit, ils amenèrent devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné, et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Donc voilà un ordre, il dit, vous faites comme le Seigneur vous a dit par rapport au sacrifice d'expiation des péchés, faites ce qu'il vous dira, et la gloire de l'Éternel apparaîtra. Et donc après, on lit le chapitre, on voit qu'ils ont fait exactement selon les instructions tout le long jusqu'au verset 22. On arrive au verset 22, tout le sacrifice a été présenté, tout est fait. 22, Aaron leva ses mains vers le peuple, il le bénit, puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation, et lorsqu'ils en sortirent, donc quand ils rentrent, ils portent le sang à l'intérieur et tout le procédé, on ne va pas développer ça maintenant. Et il dit, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Comme promis, la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Verset 24, le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste, les graisses. Tout le peuple le vit et poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Donc, il y a eu le sacrifice pour le péché. La voie est ouverte, tout est mis en place. Et il nous dit à ce moment-là, eh bien, le feu est venu de la part de l'Éternel et a consumé l'offrande qui était là, l'offrande d'adoration, l'a consumée. Ce feu-là, Dieu l'a allumé et dorénavant, eh bien, il fallait entretenir ce feu-là. C'était le feu de l'Éternel. C'était un feu qui était allumé par l'Éternel. Il entretenait, donc il y avait constamment du feu dans le tabernacle, sur l'autel, constamment du feu, et il fallait l'entretenir. Bon, par la suite, ils se sont éloignés du Seigneur, et ça s'est éteint, et c'était un autre problème. Et donc, et c'était important que ce feu soit là, parce que qu'on l'utilise, et Dieu a insisté que ce soit ce feu, et pas un autre. Et vous lisez dans le chapitre suivant, hein, Lévitique 10, si vous lisez les premiers versets, vous allez voir que les deux fils d'Aaron, eh bien, dans leur service, ils ont dit le feu, c'est du feu. et ils ont été allumés quelque chose, mais pour Dieu c'était du feu étranger. Et ce qui est arrivé, c'est que le feu de l'Éternel les a consumés, eux, ils ont été jugés. Hein, on ne vient pas à Dieu avec du feu étranger, avec autre chose. Et je crains que de nos jours, il y a beaucoup de choses qui se font d'adoration, mais avec du feu étranger. Ce n'est pas le feu de l'Éternel, ce n'est pas réellement l'Esprit de Dieu. Hein, et vous lisez le Nouveau Testament, c'est toujours la prière, c'est par l'Esprit de Dieu, l'adoration, c'est par l'Esprit de Dieu, et pas autre chose. Et ce n'est pas par nos propres capacités, par notre talent de musique, par nos talents physiques, par notre imagination de pouvoir créer des choses et des phénomènes et tout cela. Ce n'est pas ça l'adoration de Dieu. Hein. C'est vraiment pas par l'esprit. Et donc, là, c'est... Et je vais souligner les détails importants là, de ce qu'on a vu dans les chapitres 8, 9 et 10. Donc, c'est des hommes choisis par Dieu... sanctifié, après on a réglé le problème du péché, la gloire de Dieu est apparue, et ensuite il y a eu le feu. Hein? Eh bien, lorsque nous relisons dans le Nouveau Testament, eh bien, justement, Jésus a pu prononcer un jour nouveau où on pourrait adorer Dieu en esprit en vérité, parce qu'il savait qu'il allait mourir. Le sacrifice pour l'expiation des péchés, le vrai, hein, tout ça dans Lévitique c'était symbolique, mais parce qu'il croyait à ce que Dieu a fait, donc Dieu l'a imputé ce pardon, mais c'était réellement en attendant que Christ meure sur la croix. Hein, donc même tous ces péchés qui ont été couverts pendant l'Ancien Testament, il fallait que Christ meure pour couvrir et cela, donc tout ce qui était avant et tout ce qui était après. Et donc, Jésus-Christ a été le sacrifice qui est mort pour les péchés. Ensuite, et comme il nous dit dans Romains chapitre 1, il est ressuscité avec gloire, hein, il a été déclaré avec puissance. Jésus dit à Marthe, lors de la résurrection de Lazare, et il lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Hein, la gloire de Dieu apparaît dans le fait de donner vie à ce qui est mort. Là où la vie n'était pas, il donne une nouvelle vie. Et Jésus, par sa résurrection, eh bien, nous voyons la gloire de Dieu qui intervient. On voit que c'est lui vraiment qui intervient, parce que ça ne pouvait pas être fait autrement. Et ensuite, à Pentecôte, acte chapitre 2, eh bien, il y a les langues de feu qui apparaissent sur les 120 qui sont dans la chambre haute. Et c'était l'effusion du Saint-Esprit sur eux. Et tout cela a permis de mettre en place hein, ce qui avait été déjà présenté dans l'Ancien Testament et s'est réalisé dans le Nouveau Testament. Et donc, dorénavant, depuis que Christ est mort, enterré, ressuscité, et que l'Esprit de Dieu est descendu, eh bien, il nous est possible d'être de vrais adorateurs. Je dis qu'il nous est possible, parce que maintenant, ça dépend de nous. Hein. Lui, il a tout mis en place pour que ce soit possible. Et ceux, donc, tous ceux qui croient en Jésus-Christ pourront adorer Dieu par le Saint-Esprit et dans la vérité. La vérité, Jésus dit, je suis la vérité. Hein. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, l'accès à Dieu pour pouvoir l'adorer, hein, c'est ça notre but. Hein, c'est celui qui croit qu'on est sauvé, c'est uniquement pour éviter le jugement dernier. Celui-là, il s'est vraiment limité la chose. C'est celui qui considère, par exemple, vivre, c'est je mange pour ne pas mourir. Et si ton seul but de ton existence, c'est pour ne pas mourir, tu manges pour ne pas mourir, tu as une drôle de vie, c'est triste. Hein. Qu'est-ce que tu vas Oui, tu manges, c'est pour t'entretenir, c'est pour faire quelque chose, accomplir quelque chose dans la vie, pour préparer, pour t'épanouir, pour... Hein, manger, bien sûr c'est nécessaire, mais ce n'est pas une fin en soi. Pas plus que croire en Dieu pour avoir le péché pardonné n'est pas une fin en soi. C'est pour écarter le problème, pour pouvoir m'épanouir dans ma relation avec Dieu. Hein, donc, c'est les vrais adorateurs, et c'est ça ce qu'il veut, c'est des vrais adorateurs qui adorent en esprit, grâce à l'Esprit de Dieu, qui est en nous, hein, heureusement que le Seigneur l'a envoyé, et de Jésus-Christ qui est la vérité, qui agit en nous. Maintenant, ce que Dieu veut, hein, il n'impose pas, il n'impose pas à tout le monde. Il veut que, parce que lui, il veut une adoration qui est volontaire et intentionnée. Hein. C'est pas, je suis né dedans, je suis né dans les familles chrétiennes, je suis né dans un pays chrétien, donc bon, je suis chrétien. C'est pas ça. Il dit non, ça m'intéresse pas. Les gens qui, les adorateurs par accident ou par convenance, ça lui convient pas. Hein, il veut. Et chacun, et même si personnellement je suis enfant de pasteur, mais ça n'a aucun avantage, il fallait que moi je choisisse. Il fallait que moi, à un moment, je me rende compte que je suis pécheur et que j'ai besoin que mes péchés soient pardonnés. Christ est mort pour ces péchés-là et que ça soit écarté et que maintenant je veux l'adorer, je veux le servir et je veux vivre pour lui. Et la grande attente, c'est de pouvoir un jour d'être dans sa présence et de pouvoir l'adorer. Donc c'est pour ça que c'est un choix que chacun doit faire, hein, un choix délibéré, libre. Hein, Dieu nous a créé libre arbitre, hein, de pouvoir faire des choix, c'est-à-dire je peux dire oui, je peux dire non, et puis après j'assume, hein. Donc, un exemple dans Actes chapitre 3, hein, quand il y a ce paralytique là, et Pierre et Jean arrivent au temple et puis ils le voient en train de mendier. Et ils disent à l'homme, il dit, écoute, l'argent et l'or que tu demandes, on n'en a pas. Hein. Mais ce qu'on a, on va te donner. Et il dit, tend la main, il dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et l'homme se lève. Il marche. La première chose qu'il fait, c'est quoi? Eh bien, vous lisez dans Actes 3, versets 7 et 8, il commence à louer Dieu. Et c'est la première chose qu'il fait, c'est pas de dire ah ouais, faut que je trouve un travail, hein, faut que je gagne de l'argent, il faut que j'ai une autre vie. Non, c'est commence par louer Dieu. Et c'est rencontrer Jésus, ça nous donne cette possibilité. Et je le loue comme jamais avant. Et c'est pas par devoir, c'est pas parce que je dois le faire, c'est parce que je veux le faire. Hein? Si réellement j'ai l'esprit de Dieu en moi, il va me donner cette envie de le faire et de vivre pour lui. Je reviens à Romains chapitre 1. Tout ça, c'était pour développer cette idée de. Et il dit, il veut qu'au nom de Jésus, tous les païens viennent à l'obéissance de la foi. C'est vraiment un gros plan que Dieu a mis en place et on a déjà souligné ce que ça a pu lui coûter et tout ça motivé par l'amour pour nous. Mais vous voyez, dans ce passage, ces sept premiers versets, nous voyons. Le mot appelé. En fait, dans ces sept versets, dans tout Romain, il y a quatre fois le mot appelé, et trois sont ici dans ce passage. Vous voyez au verset 1, il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Appelé, donc c'est quelque chose que Dieu a fait, c'est une initiative, une invitation de la part de Dieu. Et il dit mis à part pour annoncer l'évangile. Et déjà dans le mot mis à part, justement, c'est ça le sens du mot « saint », « sanctifié », c'est être mis à part. Mis à part pour. Donc déjà, vous voyez, associé au fait d'appeler, mais c'est pour être sanctifié, pour être mis à part pour une fonction particulière à laquelle Dieu appelle. Ensuite, vous trouvez le mot « appelé » au verset 6, hein, à la fin du verset 6. Il dit, donc je commence à lire au verset 5, « Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. » Donc vous êtes déjà dans le Seigneur, mais en fait, si vous regardez bien, vous allez voir qu'en fait, il vous a attiré vers lui, il vous a appelé, il vous a invité à venir. Vous avez, bien sûr, vous avez entendu le message, mais dans le message, vous avez entendu une invitation. Et vous avez répondu, vous avez été appelé, et appelé en vue de quoi? Eh bien, le verset 7, il dit à tous ceux qui, à Rome, sont bien aimés de Dieu, saints par vocation. Et vocation, le mot vocation, c'est appel, c'est le même mot. Hein, par vocation, par appel, vous avez été appelé, et vous êtes appelé à être saint. Vous êtes appelé à être mis à part. Vous êtes appelé à être un peuple mis à part, un peuple saint. Et c'est, il y a toujours cette... Dieu, quand il nous... C'est pas seulement le fait de sauver quelqu'un de la noyade, mais c'est quelqu'un ensuite de l'établir. Hein. Après, c'est comme tous ces pauvres gens qu'on récupère sur la Méditerranée, ils sont en perdition, et quelqu'un les récupère, et c'est déjà un bon geste, mais après il les dépose dans un port, et puis après c'est terminé. Non, Dieu, il nous suit, hein, il nous récupère de la mer, et puis après il nous suit jusqu'à notre épanouissement total. Et donc, il appelle et dit, mais après c'est pour que vous viviez consacré à une vie particulière. Et donc, le Saint-Esprit est associé à cet appel chaque fois. Hein, et je vous invite à regarder dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Non, excusez, 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Hein, pour juste après, on reviendra dessus, on développera plus. Mais cet appel, quand le Seigneur nous... si je suis venu au Seigneur, c'est que j'ai entendu une invitation et j'ai répondu. J'ai répondu oui. Donc, 2 Thessaloniciens chapitre 2, et je lis les versets 13 et 14. Il dit, « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, donc le remercier, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. » Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Il dit, en fait, si vous êtes là, si vous êtes dans le Seigneur, c'est parce que le Seigneur vous a, hein, il s'est adressé à vous, et il vous a appelé, mais il dit, mais il vous a appelé, c'est pas juste comme ça, mais il dit, mais là on voit l'œuvre du Saint-Esprit, il dit, par la sanctification de l'esprit, et par la foi en la vérité. Vous avez l'esprit et vérité qui réapparaissent. Hein, c'est toujours là. Il dit, vous êtes appelés, c'est pour une vie sanctifiée et une vie qui est par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et bon, c'est quelque chose qu'on va développer de plus. Hein, dans 1 Pierre chapitre 1, il dit, ben, Dieu est saint et vous devez être saint. Hein, il n'y a pas plus logique que cela. Et donc... nous sommes appelés par le message de l'évangile de Dieu à vivre dans la pureté, la sainteté. Hein, c'est ça son intention, parce que c'est parce que le péché était un problème. Hein, c'est pour ça que Christ est mort. Dieu voulait notre adoration, voulait qu'on se tourne vers lui, qu'on puisse l'adorer. Le problème, c'était le péché. Nous étions incapables. Il a vu très bien que nous étions incapables de régler notre problème. Il est intervenu de son côté, à ses frais, préparer, écarter le problème du péché, écarter cela, pour qu'on puisse venir à lui et qu'on puisse l'adorer. Et donc, si le péché était un problème, on ne veut pas que le péché continue. Après avoir commencé avec le Seigneur, après avoir reçu le pardon, hein, j'ai dit, oh, ben, non, je suis sauvé. Eh bien, maintenant, je peux continuer à vivre ce que je veux jusqu'au moment où je meurs et puis je serai avec le Seigneur. Ben, celui-là, il a rien compris. D'abord, à ce que ça a coûté au Seigneur, et deuxièmement, pourquoi il nous a sauvés. Hein? Nous sommes appelés à vivre pour lui. Hein? Il dit, vous avez reçu, vous êtes saint par vocation, il vous a appelé, c'est pour que vous soyez saint, mis à part, on va développer cela aussi un peu plus plus tard. Mais, maintenant, Dieu, dans sa grâce, hein, c'est ça l'évangile de Dieu, et il dit, j'ai vu votre problème, j'ai vu cette situation dans laquelle vous étiez pris, et c'était une situation inextricable, impossible. Hein, et il dit, voilà, j'ai tout fait, j'ai fait le nécessaire pour que vous puissiez sortir. Maintenant, je vous offre l'option, est-ce que vous allez l'accepter, le recevoir? Mais quand vous l'acceptez, quand vous acceptez d'être sauvé, vous acceptez aussi ce qui va avec, hein, la vie, hein, et cette consécration pour le Seigneur, de vivre pour lui, et de vaincre le péché dans notre vie. Et ça, c'est sa volonté. Hein, c'était sa volonté qu'on puisse l'adorer. C'était pour que sa volonté puisse être possible, que Christ est mort, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité, que le Saint-Esprit est venu et qu'il vit parmi les hommes. Ce n'est pas pour du confort, hein, que le Saint-Esprit est en nous, parce qu'il souffre terriblement, hein, on lui fait voir toutes sortes de choses. Mais c'est pour que nous puissions adorer. Sa volonté, c'est que nous puissions l'adorer, sans obstacle. Ce n'est pas qu'on ait une religion, mais qu'on puisse adorer. Et quand je dis tout cela, finalement, je vous rappelle ce qu'on appelle la prière du Seigneur, qui n'est pas la prière du Seigneur, il n'avait pas besoin de la prier. C'est la prière du disciple au Seigneur, c'est notre Père. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ta volonté dans le ciel, c'est qu'on t'adore. Les êtres célestes t'adorent. Eh bien, nous prions que ta volonté soit faite sur la terre, c'est que ceux qui sont terrestres aussi t'adorent. C'est sa volonté. Et tout ce que cela englobe. Et donc, c'est là où cette prière réellement sera réalisée. C'est pour ça que je dis à beaucoup de gens, ils me disent, ah, vous priez le Notre Père? Je dis, bah, écoute, je trouve assez difficile de prier, en fait, quand je pense à ce que ça veut dire. Puis comment ça? Écoute, si ta vie est dans le désordre, hein, si déjà tu n'es pas en train de vivre à la gloire du Seigneur, comment est-ce que tu peux dire que ta volonté soit sur la terre comme au ciel, hein? Que ta volonté soit faite chez moi comme au ciel. Il y a un drôle de ciel, hein, si c'est en train de se faire. Est-ce que tu y penses et tu veux vraiment faire la volonté de Dieu dans ta vie de tous les jours? Et donc, encore une fois, c'est ça l'évangile de Dieu. Hein, c'est pas le fait d'être sauvé d'une condamnation. C'était jamais quand Dieu a créé l'homme, il avait jamais l'intention du jugement éternel. C'était fait pour Satan et ses anges. C'était pas fait pour l'être humain. Et il dit, vous vous êtes mis dans une situation. Maintenant, moi, bon, je veux bien vous sortir, mais il faut le demander. Hein, je veux pas l'imposer, hein, parce que je vous ai créé libre et capable de choisir, d'avoir une volonté de choisir. Donc, je dois vous laisser choisir. Maintenant, je fais tout pour vous encourager à choisir, à venir vers moi. Hein. Et donc, je vous démontre mon amour pour vous. Je me démontre comment je vous appelle le Père. Je veux faire de vous des enfants, mes enfants. Il dit, je veux tout ça. Et il dit, mais il faut que vous choisissiez. Et après, c'est une autre vie. Hein. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une autre vie. Et c'est ça. Et donc, après, Jésus dit, les vrais adorateurs, hein, ce sont ceux qui adorent en esprit, en vérité. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Il dit, oh, il y en a qui disent Seigneur, Seigneur, je ne les connais même pas. Mais il dit, mais c'est les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent en esprit, en vérité. Oh, que le Seigneur nous aide. Si nous avons compris cela, eh bien, on devient responsable, hein, de ce que nous connaissons. Et comme on dit si bien en France, hein, nul n'est censé ignorer la loi. Maintenant, on n'est pas ignorant, on sait ce que le Seigneur veut de nous. Alors, c'est à nous de l'accomplir, de le vivre. Que le Seigneur nous aide. Je vais nous accorder quelques moments de silence.